orientale. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. C'est ce que vous m'avez dit au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de l'imprécision, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le retour du Maroc à l'Union africaine est salué par plusieurs États et gouvernements africains, soulignant que le Royaume du Maroc est un grand pays qui apportera un grand apport aux efforts de développement dans les continents. Plusieurs spécialistes pensent aussi que cette réintégration va renforcer le rôle central que joue le Maroc entre l'Afrique et l'Europe grâce à l'utilisation et la mobilisation d'un ensemble de fonds internationaux. Comment la RDC peut-elle capitaliser aussi ce retour? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler directement au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où se tient également ce débat. Julie Fesabongonda est au standard de cette émission. J.R. Lungembo Luabung Angie est à la coordination et la présentation de ce programme mis en onde par Sylvain Matundu, supervisé par Martin Sebujangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Beaucoup d'analystes évoquent que si le Maroc voit un intérêt particulier à réintégrer l'organisation africaine, lui a aussi peut se réjouir de ce futur nouveau membre qui possède de nombreux atouts. Le Maroc a en effet un rôle important dans le règlement de nombreux conflits africains et dans son discours, Mohamed IV a d'ailleurs rappelé la contribution du pays, de son pays dans de multiples initiatives en faveur de la stabilité et la sécurité, et notamment en ce qui concerne les opérations de maintien de paix en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Le Maroc est également impliqué dans de nombreux projets économiques structurants du continent africain et dans des investissements majeurs dans de nombreux espaces africains. Voilà, donc comment la RDC peut-elle capitaliser son retour? Maître Sonville, vous êtes avec nous, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Par rapport à la thématique Monsieur Gier, j'estime que c'est une bonne chose du fait que la brebis égarée, il n'a pas perdu et rentré chez son père qui n'est autre que l'Union africaine. Mais néanmoins, il y a un agenda caché quand même nous connaissons que le Maroc a une économie stable qui peut aussi profiter aux autres pays par rapport à sa contribution au fonctionnement de l'Union africaine. Mais néanmoins, l'agenda caché qui est du Maroc, c'est de récupérer les fonds polisarios. C'est là où va se poser les problèmes. Et néanmoins, par rapport aussi au Maroc, je sais que c'est un pays qui est stable, c'est un pays qui a de bonnes relations avec l'Occident, mais il ne faudrait pas que le Maroc puisse jouer le rôle là du retrait de l'Afrique au niveau de la CPI. Parce que nous voulons que le Maroc puisse renforcer la démocratie au niveau de l'Afrique. Mais est-ce qu'au Maroc, la démocratie existe? C'est ça encore notre problème que nous avons.
Oui, mais son ville. On sait tout de même que oui. La RDC compte parmi les pays d'anciennes relations avec le Maroc, vous vous souviendrez. Et d'ailleurs, à une certaine époque, on a consommé des sardines qui provenaient d'ailleurs du Maroc. Et on avait senti à cette époque-là qu'il y avait une forte coopération entre les deux pays. Est-ce que vous estimez que ce retour, la RDC peut aussi le capitaliser?
Oui, ce retour du Maroc, il ne faudrait pas que seulement la RDC puisse profiter du Maroc. Il faudrait que la RDC puisse aussi améliorer les conditions de vie de ses citoyens et progresser même dans les dans des produits manufacturés pour aussi exporter au niveau du Maroc. Je sais que le Maroc a toujours entretenu de bonnes relations avec la RDC, même du temps du feu maréchal Mobutu, parce que je me rappelle quand j'étais encore petit, avec la guerre de six jours, la guerre de Colombie, tout ça, nous avons vu les troupes marocaines au niveau de Lubumbashi, qui étaient logées même dans les camps Lido. Je me rappelle à ce moment-là. Et d'ailleurs, même pour votre gouvernement, monsieur, j'estime que vous n'ignorez pas que le corps du maréchal se trouve aujourd'hui même encore au niveau du Maroc. Mais néanmoins, ce que je dis, le Congo doit profiter de l'expertise du Maroc dans certains domaines pour que le Congo puisse aussi faire face. Qu'elles ne soient pas seulement une relation à sens unique, il faudrait que ce soit une relation bilatérale, surtout dans tous les domaines. Mais surtout, pour y arriver, il faudrait que le Congo puisse établir aussi un gouvernement stable. Il faudrait qu'il y ait la stabilité sur le plan économique et sur le plan surtout de la paix. Parce que sans la paix, le Congo ne fera absolument rien avec le Maroc. Parce qu'au moment où nous devons investir dans d'autres, dans certains domaines, il y a des guerres par-ci par-là, il y a des problèmes par-ci par-là, et le Congo ne sera pas bien voilà. Amélioré, sera pas bien orienté.
Oui, mais très bien, il y a aussi un secteur qui nécessite un peu quand même qu'on puisse être un peu regardant, peut-être en profiter aussi pour renforcer la coopération de ce côté-là, et c'est le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, le Maroc accueille plus de 2000 étudiants congolais sur son sol, donc je crois que c'est quand même un secteur aussi à exploiter.
Oui, c'est un secteur à exploiter. C'est ce que je dis, il ne faudrait pas que ces échanges là soient seulement dans le sens unique. Le Congo aussi doit saisir cette opportunité d'attirer aussi les Marocains pour qu'ils viennent sur la République démocratique du Congo par rapport à l'amélioration aussi des conditions d'enseignement, des conditions dans lesquelles évoluent nos enseignants. Puisque le Maroc, c'est un bon pays, surtout dans beaucoup de domaines. Le Maroc se distingue par rapport à d'autres pays africains. Mais néanmoins, il ne faudrait pas que ces échanges-là soient d'une manière seulement à sens unique. Moi, je voudrais que si, par rapport à que le Congo puisse, j'estime que la RDC a beaucoup de professeurs à travers le monde, des professeurs expérimentés. Si aujourd'hui, la RDC parvient à perdre tous ses crèmes intellectuelles, c'est plus que les conditions ne sont pas bonnes. Les conditions dans lesquelles devaient évoluer ces professeurs ne sont pas bonnes. Alors, si aujourd'hui, il y a l'attraction du côté du Maroc, puisque de ce côté-là, il y a une bonne organisation. Et d'ailleurs,
Oui, je disais, on va quand même voir avec notre invité tout à l'heure, donc je crois que nous aurons un peu à réfléchir également avec d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre sur déjà aussitôt réintégrer l'UIA. On a vu les responsables du Maroc visiter le Gabon, qui est une ancienne relation également. Je crois que toujours dans le sens de pouvoir renforcer un peu les relations et voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour réellement aider tant soit peu des pays qui ont des problèmes aujourd'hui de stabilité ou encore du côté de la sécurité, de pouvoir un peu profiter de ce retour de manière un peu positive. Merci beaucoup, Maître Sonville. Alors on va prendre Kémy qui est à Kinshasa. Kémy, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Mais quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, JR, moi je crois que le Maroc n'est pas un pays négligeable, c'est un pays qui fait ses preuves du point de vue économique, social, c'est un pays attrayant. Mais la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, c'est pas une mauvaise chose, mais je crois que le Maroc doit prêcher par exemple, notamment concernant le dossier du Sahara occidental. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu à écrire un livre là-dessus. Les relations entre les pays africains sont basées sur les textes, notamment la charte de l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, ils ont précisé un principe sacro-saint qui est celui de l'autodétermination des peuples. Alors, si le Maroc, qui est un pays important, comme je l'ai dit, veut réintégrer l'Union africaine, ils ont aussi respecté le droit des peuples à l'autodétermination. Parce que, quand vous remarquez ou vous observez l'histoire de notre pays, il y a les différents régimes qui ont eu à prendre position par rapport à ce dossier. Aujourd'hui, le régime en place, le régime du président Joseph Kabila, se caractérise par une certaine neutralité face à cette question. Mais il faut savoir que, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila était pour l'indépendance du Sahara occidental. Alors, moi je crois que mon point de vue est que le Maroc doit d'abord essayer de lâcher un peu du lest sur ce sujet du Sahara occidental pour prêcher un peu par l'exemple. Mais la réintégration du Maroc, nous sommes d'accord pour ça, parce que c'est un pays important.
Oui, je crois ici quand même de rappeler pour ceux qui nous suivent que le Maroc avait quitté l'UIA en 1984 pour protester, vous l'avez dit, contre la reconnaissance de l'institution de la République arabe sahraoule démocratique, et nous disons pour rappeler quand même certaines origines, les conflits datés de 1975, le territoire était occupé par l'Espagne et cette dernière s'est retirée sans préparer des décolonisations. Alors ce territoire se trouvant dans les prolongements du Maroc, et étant donné le lien historique important entre les Marocains et les tribus qui y vivent, alors le roi Hassan II, père de l'actuel monarque, a lancé la marche verte le 6 novembre 1975 afin de récupérer ces territoires contestés. Alors, des affrontements armés s'en sont suivis, ils ont cessé en 1992 et laissé place à une longue bataille juridique devant les tribunaux internationaux. Donc, aujourd'hui, c'est le statu quo et l'armée marocaine est présente dans les Sahara occidentales. Voilà, donc, juste une question pour rappeler aux uns aux autres, c'est ce qui ne maîtrise pas, en fait, cette question. Et merci de l'avoir rappelé et d'avoir souligné également que la RDC, en ce moment, observe une certaine neutralité sur cette question, contrairement au régime précédent, la Deuxième République et également le roi Désiré Kabila. Alors, Kémy, aujourd'hui, avec ce que prône le Maroc, la coopération Sud-Sud, je crois que la RDC peut en profiter énormément, Kémy.
Oui, la RDC peut en profiter, mais il faudrait que cette coopération Sud-Sud aussi soit soit conditionné par certaines conditions, notamment politiques, parce que le Maroc, si elle veut réintégrer l'Union africaine, elle doit aussi dans sa politique de gestion des réfugiés ou bien des personnels étrangers dans son pays, parce que on remarque qu'il y a beaucoup des étrangers, des noirs africains qui sont maltraités, notamment les étudiants qui sont maltraités au niveau du Maroc. Moi, je crois que il doit essayer un peu de réviser un peu sa politique vis-à-vis des étudiants étrangers qui vivent au Maroc, parce que on doit pas se voiler la face. Le Maroc reste aussi un pays pas trop raciste, mais il y a un peu de racisme qui règne là-bas. C'est un peu ce point noir que moi je remarque dans ce Maroc.
Voilà, merci beaucoup Kémy d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué dans cette émission. 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Mesdames et messieurs, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous recevons nous accueillons donc notre invité qui est déjà en ligne, Xavier Messé, DG du journal Mutation à Yaoundé au Cameroun. Bonjour, cher confrère.
Oui, bonjour.
Alors, nous parlons du retour du Maroc à l'organisation panafricaine, l'Union africaine. Quels sont, selon vous, les enjeux de ce retour?
Mais je voudrais d'abord signaler que le départ du Maroc en 1984 de l'organisation de l'Union africaine, comme ça s'appelait à l'époque, était une plaie qui est restée béante jusqu'à ce jour. Parce que, souvenez-vous, le royaume du Maroc a fait partie, depuis 1963, du pays membre fondateur de notre organisation continentale. Alors, pour des mésententes, pour des problèmes de procédure, pour des problèmes d'ego, le Maroc a quitté cette organisation qu'il a contribué à créer, il l'a quitté en 1984. Alors donc, si vous voulez, à mon avis, la place du Maroc est restée ouverte, elle est restée vide, Et on s'est rendu compte que progressivement, le Maroc, le roi du Maroc, le nouveau roi du Maroc, Salih Mohamed VI, a commencé à œuvrer progressivement depuis 1950, quand il a pris le pouvoir pour succéder à son père. Il a commencé à œuvrer pour que le Maroc réintègre cette place qui était vraiment la sienne. Alors nous sommes heureux de constater aujourd'hui que le Maroc a réintégré l'organisation de l'Union africaine qui s'appelle aujourd'hui l'Union africaine. Et c'est quelque chose qui réjouit, n'est-ce pas, les africanistes, parce que nous ne pouvions pas penser que le Maroc, membre fondateur de notre organisation continentale, en soit resté pendant aussi longtemps à l'écart de cela. Je voudrais, si vous permettez, revenir un tout petit peu sur un aspect, sur un des aspects les plus marquants, parce que nous nous sommes rendus compte que au sommet de l'Union africaine qui a eu lieu le 17 et le 18 juillet à Kigali au Rwanda, le ministère que le roi Mohamed VI a envoyé a prononcé un discours qui était à la fois un discours de cœur, un discours de repentir, un discours de retrouvailles, un discours de main tendue. Et je pense qu'à partir de ce discours où il disait notamment le Maroc a quitté l'Union africaine, mais il n'a pas quitté l'Afrique, le temps a fait son temps, et qu'il est temps que le Maroc revienne. Nous pensons que même quand cela s'est passé à des moments précis, sous des bases précises, je pense que ce discours, qui a été le prélude à celui que le roi lui-même a prononcé lors de sa réadmission, et quelque chose, ce sont des moments importants que nous devrions prendre au sérieux. Et nous, en tant qu'observateurs de la scène politique africaine, nous avons pensé que c'était des moments forts et que le Maroc devait réintégrer la scène africaine politique. Mais il faut dire, mais si vous permettez encore une fois de plus, si vous voulez, le Maroc réintègre l'Union africaine, disons, sans avoir obtenu quoi que ce soit, puisque le Sahara occidental est toujours là.
Mm-hmm.
Il est toujours là. C'est-à-dire les partisans du retour du Maroc, les partisans du maintien de la République arabe sahraouie, si on peut l'appeler ici, ils ont abouti à un consensus qui a permis aux uns et aux autres de ne pas de rester dans l'Union. C'est à partir de cet instant qu'il faut voir comment est-ce que les enjeux vont se poursuivre, comment est-ce que les négociations vont se poursuivre. Nous pensons que c'est le moment que la scène politique africaine doit continuer d'observer, et les médias en particulier.
Oui, alors, Xavier, aussitôt réintégré, certains responsables du Maroc visitent déjà quelques États africains, notamment les Gabon et un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui, disons, sera au centre même de cette visite?
Mais vous voyez, nous pensons que le Maroc a eu toujours une vision économique continentale. Le Maroc, à un moment donné, du moment du roi Hassan II, et ce monarque qui nous a quittés, avait prononcé une petite phrase qui est restée historique, mais qui gênait un tout petit peu les Africains que nous sommes, les panafricanistes que certains sont. Il avait dit que le Maroc voulait intégrer l'Union européenne. La proximité avec l'Occident, lorsque vous êtes à Casablanca, vous regardez l'Égypte, vous regardez le Portugal, il y a le Gibraltar, qui n'en met pas loin de Tanger. Donc on pense que le Maroc est aux portes de l'Europe et il est en même temps à l'intérieur du continent, c'est-à-dire il est complètement dans le continent africain. Donc le Maroc a pensé que c'est ça son histoire, qui est une histoire millénaire, c'est un vieux continent, c'est un vieux pays qui a une très 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 longue histoire avec une conservation historique extraordinaire. Le Maroc a pensé qu'il pouvait se tourner, tout son développement économique, il pouvait se tourner vers l'Occident. Mais l'Occident, c'est-à-dire l'Union Européenne, lui a tendu une pièce en disant ben, on peut avoir des accords, mais que en fait on lui a rappelé en des termes précis que son avenir est dans le continent africain. L'avènement du Mohamed VI
est là pour consolider cela. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, Mohamed VI s'est rendu compte que le roi, enfin que le Maroc a son avenir dans le continent africain.
Mm-hmm.
Alors c'est pour cela que ces pays, qui a bénéficié de par sa proximité d'une technologie occidentale très poussée, le Maroc a un développement dans le continent qui n'a rien à envier à ce qu'on peut dire de l'Afrique du Sud, par exemple, pour ne citer que ce cas-là. Le Maroc détient aujourd'hui non seulement une technologie, mais il détient une avancée économique très très importante et qu'il peut faire profiter à tout le continent. Je me souviens une fois, j'étais à Casablanca et un responsable marocain me disait que l'Afrique signe des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous pensons que ces accords de partenariat économique devaient être signés avec le Maroc parce que le Maroc prend de l'Occident. Et il peut avoir, après avoir pris de l'Occident, il peut redistribuer en Afrique. Et que ce que les Africains au sud du Sahara vont chercher en Europe, ils peuvent l'obtenir au Maroc. C'était peut-être, à première vue, en plus comme exagéré, mais c'était pas loin de la réalité.
Mm-hmm.
Alors c'est pour ça que le Maroc s'est rendu compte que, autant qu'il fait une pénétration économique africaine au Gabon, au Cameroun, au Rwanda, au Congo, en Éthiopie, à Machina, autant il faudrait que cette pénétration économique soit balisée par une pénétration, un retour tout au moins politique. Parce que vous savez, le politique est là, le diplomatique est là pour baliser le terrain avant que l'économique ne suive. On ne peut pas à la fois faire une pénétration économique et être absent sur le terrain politique. Je pense que ces deux actions qui sont d'un côté économique, de l'autre côté diplomatique, c'est-à-dire politique, sont les deux axes vers lesquels le Maroc a appris son champ politique et il est en train de réussir sur les deux plans.
Voilà, alors Xavier, nous vous gardons en ligne le temps d'accueillir également les deux autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat et puis on reviendra à vous pour quelques autres commentaires. Léonard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat, le retour du Maroc à l'Union africaine, quels sont les enjeux pour vous?
Bon, les enjeux, comme la question avait commencé, de limiter ces retours avec les avantages que pourrait tirer la République démocratique du Congo, je pense que les débats peuvent être très, très, très limités, dans le sens que si nous regardons ce retour du Maroc, c'est pas comme le retour d'un père qui a laissé sa famille et que d'un coup, il revient à la maison avec ses conditions et puis chez nous, chez papa, il est attaché. Et pas ça. Et le Maroc est parti comme un État, il est parti comme un État. C'est le retour d'un État au milieu des autres États. Donc, les intérêts jusque-là seront des intérêts d'État à État. Et comme nous le savons, dans les relations internationales, il n'y a pas de meilleurs amis, il n'y a que des intérêts qui comptent. Parce que limiter la République démocratique du Congo à ce retour du Maroc, il faut d'abord voir qu'est-ce que la République démocratique du Congo retire de l'Afrique du Sud, qui est notre voisin direct ici, avec tout ce que nous avons comme organisation SADC. Et qu'est-ce que nous retirons des Zimbabwe? Alors, vous voyez tout ça, on peut étendre ces chaînes de l'autre côté.
Oui, est-ce que vous ne partagez pas à cet avis, Léonard, qu'aujourd'hui, avec des avancées économiques que connaît donc le Maroc, et aussi la grande technologie, la RDC, ne peut-elle pas profiter donc de la proximité qu'a ce pays avec l'Occident pour au fait monter d'autres stratégies économiques afin de booster un peu le développement du pays?
Je suis un peu sceptique sur ce point dans quel temps, parce que l'Afrique du Sud aussi c'est un pays qui a une technologie très très avancée. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo retire de ça? Peut-être le retour du Maroc sera juste comme la présence de l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo ne pourra bénéficier que si exactement on arrive à exploiter nos potentialités de sorte à nous mettre devant une compétitivité équilibrée. Sinon, c'est nous qui allons au contraire subir comme ce que nous sommes en train de subir ailleurs. Voyez, nous sommes IRGL, qu'est-ce que nous gagnons? Nous sommes avec SADC, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous profitons de ça? Je pense que la question du Maroc, c'est le retour. Vous voyez, déjà même son retour a été un peu controversé vis-à-vis de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, qui ont émis des réserves.
Mm-hmm.
Déjà, là, il y a des réserves qui sont mises parce que Il s'est dit que la question de la République arabe saoudienne démocratique et la présence du Maroc avec tout ce qui est comme capacité économique et politique risquerait d'influencer les rêves encore de cette République qui est fragile et qui doit impérativement être soutenue. Alors si le Maroc revient au bon sens, ça sera peut-être au bout d'une année le temps pour elle, le temps pour lui de s'enraciner. Vous avez vu, le Maroc est reconnu, a recouru à la République démocratique du Congo, d'abord pour que cette décision passe. C'est disant que la République démocratique du Congo, c'est parmi les États aussi forts au milieu bien qu'il est fragilisé par tout ce que nous connaissons. Alors, quand le Maroc va s'installer, et avec tout ce qui est comme dans les Sahara, il n'y a plus de leader, la Libye est par terre, il reste c'est l'Algérie, on risque encore de créer une zone de tension entre le Maroc et l'Algérie. Et ce qui fera à ce que l'Afrique du Nord déjà soit déstabilisée pendant qu'il y a encore des leaders qui se recherchent, les Nigériens qui cherchent à lever sa tête, qui est d'abord au cours de ces conflits, et aussi de l'Afrique du Sud qui pourra s'imposer. Et là, on verra encore au centre, c'est l'Angola, le Rwanda, bien que petit, pourra à lui aussi lever ses racines, surtout que pendant cette rencontre, les représentants de la République étaient à côté du Rwandais. Donc vous voyez déjà que si le retour du Maroc est là, ne voyons pas ça comme le retour d'une brebis.
Voilà, dans le garé.
Il faut voir ça très loin.
Merci, merci beaucoup Léonard, surtout d'avoir rappelé en fait la certaine réserve mise par certains pays, notamment l'Angola, l'Algérie et l'Afrique du Sud quant au retour du Maroc à l'Union africaine. Alors Cyril, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Cyril.
Bonjour Monsieur le journaliste, et bonjour évidemment la Radio Capi, et bonjour au peuple congolais.
Alors Cyril, on sait tout de même qu'aujourd'hui, la collaboration que tout le monde souhaite et tout le veut, passera par une coopération sud-sud comme le souhaite le Maroc, le règlement des problèmes agricoles en Afrique et les échanges financiers. Et je crois qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous demandez à la RDC? Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire pour capitaliser au fait ce retour?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais rappeler à mes précédents que nous sommes dans l'obligation de porter un raisonnement cartésien pour l'avenir de notre pays et de notre continent africain. Bien sûr, la question du nationalisme africain aujourd'hui est une brève méditation philosophique. Vous savez, messieurs les journalistes, le retour du Maroc à l'Union africaine. Vous savez, le Maroc est un grand pays avec une avancée économique à plus haut niveau et avec une grande technologie. Il n'a rien envié auprès du Cameroun, au Gabon et tout ça, etc. Mais je crois que la première question là que vous venez de poser, l'Union africaine est une grande organisation. Si la RDC, je crois que la République du Congo peut requérir du Maroc au sein de cette Union africaine une expérience sur le plan économique et sur le plan technologique. À mon avis, il est la bienvenue au sein de cette union. Mais vous savez, si l'État congolais peut entretenir, comme vous l'avez dit là, des bonnes relations diplomatiques avec le Maroc, je crois que nous pouvons aussi recevoir une certaine avancée économique à plus haut niveau et un système technologique, je crois, que des hautes envergures.
Oui, mais
et ça sera bénéfique pour pratiquement la vie de retour du Congo.
Oui, Cyril, vous allez poursuivre, mais vous êtes sans ignorer que lorsque Mohamed VI a fait son discours, a d'ailleurs rappelé la contribution de son pays dans de multiples initiatives en faveur de la stabilité et la sécurité, et notamment en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Donc on peut dire que toutes ces initiatives ont été bénéfiques pour la RDC, par exemple.
Oui, bien sûr. Vous savez, si le Maroc rentre au sein de l'Union africaine, monsieur le journaliste, il faut applaudir. Voilà pourquoi ils ont amorcé de grandes visions au sein de l'Afrique. Ils ont trouvé que, réellement, l'Afrique a des petits problèmes. Parce que quand ils ont quitté, c'est vrai, ils sont allés s'asseoir et ils sont allés ailleurs, mais ils ont compris que l'Afrique pose de gros problèmes sur la stabilité, entre autres, sur la maintien de la paix, etc. Voilà. C'est sur base de cette expérience qu'ils rentrent pour encore consolider la paix et donner les vrais sens de l'Afrique. Parce que partant de sa façon de pouvoir travailler au sein de l'Afrique, je crois que nous pouvons, nous les Congolais, bénéficier de la grande expérience du Maroc. Et ça peut être bénéfique au sein de notre pays, particulièrement essayer d'être journaliste.
Merci beaucoup Cyril. On va prendre Jean Placide qui est à Kinshasa et puis on relie à vous Xavier Bessé, notre invité. Jean Placide, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
En fait, par rapport au sujet du jour qui est le retour du Maroc à l'Union africaine, je pense que c'est une initiative à saluer. D'autant plus que au nom du panafricanisme, au tournant du panafricanisme, nous sommes quand même un peu contents de voir qu'il y a certains conflits africains qui peuvent se régler sans toutefois une interférence directe des pays occidentaux. Je crois que au niveau d'Afrique, c'est une initiative à saluer parce que aujourd'hui, le Maroc étant l'Union africaine a démontré sa force, a démontré combien de fois il pouvait vivre en autarcie et essayer de se gérer en état responsable. Pour ce qui concerne maintenant les échanges avec notre pays, je pense qu'il faudrait revoir la théorie de l'échange international qui exige à ce qu'il faudrait, avant d'aller de se pointer pour échanger avec un État, il faudrait être sûr que ça serait justement une sorte d'échange. Échange, vous donnez, vous apportez au marché à l'autre État, et l'autre État en revanche vous amène quelque chose. Mais si vous allez avec le fait, vous connaissez les réalités de votre pays, voilà, c'est un pays qui est caractérisé par une économie extractive, de minerais. Et alors que le Maroc est un pays à multiples dimensions, je considère que notre pays peut être bénéfique par cet échange, par le fait d'échanges d'expérience, là, tout d'abord. Je crois que, malgré que le Maroc était en dehors de l'Union africaine, il avait cessé de coopérer avec la RDC. Vous le savez, je pense qu'un de mes prédécesseurs l'a dit, que c'est le pays qui héberge le corps d'un président de la République, d'un ancien président de la République de ce pays, c'est-à-dire que l'amitié qui a toujours régné entre le Maroc et la République démocratique du Congo est une amitié de vieille époque. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, je pense que sur le plan éducationnel, sur le plan scientifique, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'expériences que nous pouvons tirer du Maroc. Et pour ce qui concerne, par exemple, l'économie, nous pourrons peut-être, à travers le Maroc, voir comment est-ce que nous pourrons dresser notre économie. Parce que aujourd'hui, l'économie du Congo semble être sur les statistiques, il se comporte bien, mais les réalités sociales ne démontrent toujours pas ce que démontrent les statistiques. Voilà.
Merci beaucoup, Jean Placide. On revient à vous, Xavier Bessé. Vous êtes le DG du journal Mutation à Yaoundé, au Cameroun. Vous venez de suivre les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'il se dégage beaucoup d'appréhension et aussi beaucoup d'inquiétude également en ce qui concerne ces retours. Et c'est un auditeur qui a évoqué les caractères des réserves émises par certains pays qui, en fait, n'étaient pas chauds par rapport au retour du Maroc à l'organisation. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une idée? Qu'est-ce qui a changé dans la position, par exemple, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et de l'Angola pour que, finalement, ces retours soient effectifs?
Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure dans ma première intervention que le Maroc n'a rien obtenu, n'a presque rien perdu, je dirais qu'il a perdu un tout petit peu quelque chose dans la maison où il revient au bercail après avoir déserté la maison familiale entre guillemets depuis 1984. Il revient sans avoir réussi à chasser le Sahara occidental. Donc c'est un retour qui est un retour logique, disons un retour raisonnable, un retour pour lequel une porte est ouverte pour des négociations consensuelles, parce que ça c'est le principe en Afrique, c'est un retour consensuel, des négociations consensuelles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les partisans
du Sahara ont obtenu que le Sahara reste là. Les partisans du retour du Maroc ont obtenu que le Maroc revienne. Donc, le Maroc est revenu, le Sahara est là. Ça, c'est d'abord des principes qui relèvent sur la base des négociations qu'on s'en fait. Maintenant, on peut en venir à la réalité, ce qu'on appelle le réel politique. Le réel politique, c'est quoi? C'est que le Maroc a besoin du continent africain. Il a besoin du continent africain pour se développer au plan économique et au plan diplomatique. Et cette ouverture dont le Maroc a besoin, il ne l'obtient pas. Le Maroc ne l'obtient pas du côté de l'Occident, c'est-à-dire du côté de l'Europe méditerranéenne et de l'Europe même beaucoup plus centrale. Donc, le champ du déploiement économique et politique diplomatique du Maroc se trouve vers le continent africain. Donc, il était à la fois obligé de revenir, il est censé, parce qu'il a besoin d'une ouverture pour son extension économique. Ça, c'est des données qui sont irréversibles. Et vous voyez, les partisans du maintien du Sahara, en tête desquels l'Algérie et l'Afrique du Sud, sont restés intransigeants, ils sont restés fidèles à ce que le Sahara reste. Et il est resté. Donc, je pense que ces considérations économiques et politiques devraient être prises en compte et on les met pas de côté, mais on en tient compte. Maintenant, pour revenir simplement aux réalités économiques. Le Maroc, vous l'avez dit, avec la RDC, du temps du Zaïre, entretenait des relations économiques et des relations sentimentales avec le Maroc. Et ces relations sont restées. Et il faut dire que la RDC, pour nous autres Africains, moi je suis de l'Afrique centrale, pour nous autres Africains, on a toujours considéré la RDC, le Zaïre à l'époque et aujourd'hui la RDC, comme un pays, un grand pays qui devrait s'élever, s'étirer vers le sommet et puis prendre d'autres pays en l'air. Le problème que la RDC a connu jusqu'ici, nous le ressentons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume. Je peux me considérer comme l'un des Congolais de l'extérieur, parce que dans la mesure où mes amis au Congo, je les rencontre à Badolité, à Kinshasa, à Kisangani, à Bukavu, à Goma. J'ai des amis partout au Congo. Quand j'arrive à Kinshasa, c'est vraiment, je suis chez moi. Donc, je chaque fois que ce pays a des problèmes à la fois politiques et économiques, je les ressens comme si c'était des problèmes personnels. Donc, je pense que le Congo, qui a des potentiels économiques, n'a pas réussi à faire et jouir ce potentiel économique pour amener à ce que ces dernières s'agent aux potentialités, à une dynamique politique et que le Congo tirerait vers le haut. Mais je vais dire que, peu importe, la grandeur d'un pays n'est pas fonction de sa superficie ou de sa population. Sinon, la Belgique ne se contenterait pas d'avoir colonisé le Congo. La Belgique détient une capacité technologique et une capacité économique dont la RDC peut en bénéficier. Je vais dire également que le Maroc détient une capacité technologique et économique dont le reste du continent peut en profiter. La puissance d'un pays n'est pas toujours fonction de sa population ou de sa densité et de sa superficie. C'est sa capacité d'avoir une technologie, d'avoir un potentiel économique qu'il peut exporter et auprès desquels d'autres pays peuvent en profiter. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc dispose de ces éléments.
Exactement.
Je vais vous dire, il y a beaucoup d'années, j'étais l'un des partisans du Sahara occidental. Je me disais que non, il faut laisser ce pays profiter de son indépendance et jouir de son autonomie. Mais quelques temps après, beaucoup d'années ont passé, je me suis rendu compte que l'Afrique ne peut pas ne pas s'arriver à la constitution des grands blocs économiques. On ne peut pas avoir des micro-États et puis continuer de dire qu'on peut aller à la rencontre du monde en passant de manière diversifiée. Et que les grands blocs peuvent être des blocs économiques, peuvent être des blocs politiques et qui vont aller à la rencontre avec l'Afrique, l'État,
Oui, Xavier. Oui,
Xavier.
Oui, Xavier. Voilà. Donc, on a compris qu'effectivement, sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées du côté de Maroc qui peut servir, de l'expérience pour d'autres pays. Mais on a aussi, compris que Mohamed VI avait insisté sur le fait que son pays est prêt à coopérer avec les autres pays du continent sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Est-ce possible aujourd'hui?
Oui, je vais dire que, vous savez, le Maroc bénéficiait déjà d'une crédibilité en ce qui concerne la sécurité. Le Maroc, je voulais parler de la RDC avant le Zaïre, où le Maroc avait des dispositions sécuritaires importantes.
La guerre de Colombie.
Oui, je vais parler d'un autre pays en Afrique où le Maroc, de par sa capacité sécuritaire, avait fait bénéficier à ce pays-là non seulement d'un système de formation, des militaires camerounais, centrafricains, gabonais ont été formés, que ce soit dans l'aviation militaire ou dans les troupes terrestres, ont été formés au Maroc. Donc, sur ce plan, le Maroc avait déjà commencé depuis un bon bout de temps à contribuer à la formation des systèmes sécuritaires africains. Et parce qu'il s'est avéré que les militaires marocains, ainsi de suite, étaient des puissants guerriers. Et dans le domaine de la santé, le Maroc a énormément contribué. Je suis pas son ambassadeur, mais ce sont des réalités que nous vivons et que nous sommes obligés de relayer pour que nos auditeurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs suivent. Sous le domaine de la santé, le Maroc s'est avéré comme un pays où le système de santé au niveau de la formation est l'un des plus efficaces en Afrique. Et j'ai vu des jeunes Africains du sud du Sahara aller bénéficier de formations au Maroc. Je pense donc que en dehors de ces deux cas que je viens de citer, c'est-à-dire la sécurité, la défense et puis la santé, aujourd'hui, sur le plan économique, le Maroc a beaucoup de choses à vendre. Je voudrais d'ailleurs terminer, je ne suis pas là, en vous disant que le Maroc a eu l'initiative, il y a quatre ans de cela, de créer une agence panafricaine qui part de l'Algérie jusqu'en Angola. Et qui reprend toutes les agences de presse, n'est-ce pas, des agences publiques de presse, pour créer une fédération qu'on appelle la FAPA. Il a fallu avoir cette idée, parce qu'il pense que nous pouvons communiquer. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, on ne doit pas l'apprendre en allant prendre l'agence France Presse ou l'agence Reuters. On doit l'apprendre par une agence africaine. Et donc aujourd'hui, la FAPA est une fédération qui regroupe à peu près 18 pays, n'est-ce pas, de la côte atlantique jusqu'en Angola. Ce sont des initiatives importantes autour de la marque. Cette fédération est en train de faire un travail très important et qui va permettre à la côte atlantique de communiquer sans passer par l'AFP, sans passer par RETE, sans passer par CAP ou par UPI. Ce sont des initiatives qu'il faut prendre et qu'il faut financer, parce que ça a un coût. Et donc je pense que sur ce plan-là, le Maroc est en train de faire un travail que nous devons apprécier, que nous devons encourager, parce que ça vient du sentiment africain.
Voilà, Xavier, on entame le dernier quart d'heure de notre émission. On va accueillir les autres auditeurs qui vont également participer à ces débats, contribuer, et puis on reviendra vous pour la conclusion. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindou, John à Magui. Ingénieur Valérie, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, pour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Oui, je voudrais dire que le retour du Maroc ne peut qu'être salué, d'autant plus que c'est un pays qui fait partie du continent africain, même si à un moment donné, il s'était retiré. Mais au moins, je crois que par rapport à la déclaration de Hassan II, qui voulait bien qu'ils aillent vers l'Europe, et aussi à celle de Mohamed VI, je crois que nous ne pouvons pas d'emblée dire qu'il est rentré dans le bon sens, peut-être qu'en tentant de se faire européen, par exemple, si vous me permettez l'expression, n'ayant pas pu, et enfin il se rend compte que je dois rentrer au bercail. Là, c'est différent de quelqu'un qui se comporterait comme un enfant qui était parti et puis qui est revenu.
Un enfant prodigue.
Mais du moins, les résultats, voilà, un enfant prodigue, c'est le terme que cherchait ma fille.
Merci.
Mais du moins, les résultats par rapport aux visites au Gabon et ailleurs peuvent un peu nous rassurer. Alors,
Par rapport à la RDC, moi je dis que même d'autres pays africains, c'est vrai, ils vont commencer à collaborer. Tout dépend de la manière dont chaque pays mettra en jeu ce qu'il a à échanger sur le plan international. Mais nous ici, par rapport à la RDC, je ne vois pas tellement comment je peux dire que ça sera trop bénéfique parce que nous avons ce défaut de ne pas profiter des expériences des autres. Je vous donne un exemple tout à fait simple. La Belgique, c'est notre ancien colonisateur. La Belgique est l'un des pays, pour ne pas dire peut-être le premier, dont l'administration est bien assise dans l'Union européenne. Mais nous n'avons jamais profité de l'expérience de l'administration de la Belgique. La Belgique a fait près de, disons, pratiquement 545 jours sans gouvernement. Moi, j'étais en Europe à ce moment-là. Vous ne sentirez pas qu'il y a absence du gouvernement. Mais chez nous, ici, si nous étions de nature à profiter des expériences de ceux avec qui nous sommes en relation, je crois que nous aurions beaucoup profité de l'expérience de la Belgique. Alors, aujourd'hui, même le Maroc tel qu'il est là, si nous ne nous mettons pas du sérieux, parce qu'on ne va pas profiter seulement du fait qu'on est en bon terme, mais parce que nous avons la volonté et la détermination de nous approprier ce qui est dans le prochain. Et puisqu'il n'y en a pas, moi je crois que nous serons toujours les mêmes. Maintenant, lorsqu'il faut réagir par rapport à l'Union africaine, moi je crois que entre pays, comme je l'ai dit, chaque pays mettra du sérieux, mais par rapport à l'Union africaine, je ne vois pas tellement une grande incidence parce que l'Union africaine elle-même ne veut pas se prendre au sérieux. Ce n'est pas le Maroc aujourd'hui qui viendra influencer des grandes décisions lorsque la stratégie des habitudes sont telles que c'est vraiment de la léthargie ou je dirais même de la négligence. Je vous donne deux exemples. Nous ici, en RDC, nous sommes agressés par les pays de l'Union africaine. Je cite le Rwanda d'abord, l'Ouganda, le Burundi. Mais ça ne peut pas se faire aux États, disons, en Europe. Les pays de l'Union européenne ne peuvent pas agresser notre pays de l'Union européenne. Et l'Union africaine est là, elle ne dit rien. Vous avez l'exemple du terrorisme, avec Boko Haram, Ansar Dine, Azawad, ainsi de suite. Mais l'Union africaine en parle dans des discours. Si aussi, hier, par exemple, il y a eu une réunion à Bamako, le G5 qui a décidé qu'ils doivent quand même renforcer la sécurité au niveau de la sous-région. Mais c'est l'initiative entre pays eux-mêmes. Mais si c'était en Europe, vous aurez remarqué que l'Europe devrait prendre des décisions et chacun s'y met pour bouter les menus hors d'état de menus.
Voilà, Valérie. Oui, Valérie.
L'Afrique n'a pas ce comportement.
Oui, Valérie, c'est pourquoi certaines personnes estiment qu'il va falloir à la RDC de pouvoir profiter de cette proximité avec l'Occident, car le Maroc, pour renforcer également cette coopération, cette ancienne relation, la relation des vieilles époques, comme l'a dit l'auditeur. Pour que finalement on arrive quand même à chercher la stabilité et la sécurité.
Je l'espère. Je l'espère, mais voyons voir. Alors, s'agissant de la formation, je vais ajouter un élément là-bas. Vous savez, moi j'étais avec les Marocains en Belgique, dont je parlais tout à l'heure. Notre formation académique est supérieure à la formation marocaine. Et chez eux, ils ne sont pas polyvalents. Or, chez nous, même quand on fait la technique, on apprend aussi autre chose et on avance. Par contre, je pense que c'est une formation qui peut nous être utile dans le développement des secteurs, disons, dans le développement sectoriel, dans le cas des renforcements des parties, des capacités, ainsi de suite. Si aujourd'hui les Congolais y vont, mais c'est peut-être faute d'aller évoluer en Europe. Mais nous, si nous mettons du sérieux dans notre enseignement, c'est nous, au contraire, dont l'enseignement devrait être importé, disons exporté, vers le Maroc. Mais nous comptons toujours sur l'exportation des minerais. Nous ne pensons pas que nous pouvons exporter notre richesse qui est l'enseignement. Voilà encore le mal.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. On va prendre John Guetta. Maragui, John, bonjour.
Ah, bonjour, Gérard. C'est une petite confusion. Là, c'est John.
Alors, John, vous avez la parole.
Non, j'ai dit que Guillaume, si vous voulez rectifier un peu. C'est Guillaume.
Guillaume, voilà, Guillaume, vous avez la parole.
Oui. Ah, merci Gérard. Ah, je salue tout le monde. Ah, je salue le retour du pays du Maroc. Après une très grande coupure dans l'intégration de l'Union africaine. Ah, nous l'ignorons aujourd'hui, hier, que le Maroc joue un rôle non négligeable en Afrique et même dans plusieurs pays. Je crois que le Maroc, c'est un pays du poids.
ou peut-être nous, la RDC, ce qui peut-être on vous capitalise, peut-être c'est l'expérience. Si nous oublions peut-être la race, la couleur, il faut peut-être profiter, nous pouvons profiter de l'expérience, de certaines capacités. Vous voyez aujourd'hui, la RDC doit peut-être dire, qu'est-ce que la RDC aujourd'hui, le Maroc participe à plusieurs opérations aujourd'hui. Je crois que quand vous partez dans les opérations Barkhane au Sahel, je crois que le Maroc a envoyé des experts de la défense stratégique, ils sont là. Le Maroc a envoyé ses agents de l'opération stratégique dans les opérations de Nissons. J'oublie ce qui se passe au Congo. Je pense que vous tous, vous savez qu'il y a des contestants marocains qui sont au Congo, ça fait très longtemps. Et puis, leur comportement, je crois que leurs opérations aussi évoluent très bien. Je me rappelle un peu très rapidement, j'étais en Algérie, 2014. Quand vous arrivez en Algérie, au grand nord, dans la province du Rouac, vous allez trouver que dans les centres de recherche sur le terrorisme, vous allez trouver qu'il y a 4 Marocains. Il y a 4 Marocains qui dirigent les centres de recherche sur le terrorisme en Afrique. Apparemment, je commence à saluer peut-être le professeur Mohamed Mougir et puis Madame Swamina Limba. Ce sont des Marocains, mais qui conduisent des affaires d'État stratégique sur le rassemblement du terrorisme en Afrique. Alors, je crois que nous, les Congolais, nous devrions aussi servir aussi d'autres. Nous ne devons pas seulement être nés au Congo, si deux Congo parlent au micro de la radio Capi, mais nous devons aussi envoyer des Congolais pour aller servir aussi d'autres pays. Donc, nous devons profiter des expériences comme ça. En tout cas, vraiment, ça peut être un très grand avantage. Je vous remercie.
Merci beaucoup, John. 081-890-6315 pour votre intervention. En direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook, où se tient d'ailleurs ces mêmes débats sur le retour du Maroc à l'Union africaine.
Okapi, c'est parti!
Radio Capi célèbre ses 15 ans d'existence le 25 février 2017. Plusieurs activités seront prévues pour célébrer cet événement.
Une exposition photo, des journées portes ouvertes, un tournoi de football avec quelques médias de la place, ainsi que des émissions spéciales aux couleurs de cet anniversaire.
Radio Capi, 15 ans de liberté d'expression.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et nous rappelons que le tournoi d'ailleurs de football marquant le 15e anniversaire de Radio Okapi se poursuit. Et ce week-end déjà, c'est au tour de la demi-finale avec l'équipe de Direct TV et la télévision CCTV. Voilà, donc je crois que ça sera la demi-finale. Et la finale, c'est avec Radio Okapi et une des équipes qui s'occupera, qui va d'ailleurs gagner la demi-finale entre les deux équipes-là. Voilà, donc on se retrouve dans le 25 pour célébrer ce 15e anniversaire. Voilà, on revient à vous, Xavier Messé. Vous avez suivi Valérie et John. Valérie qui a évoqué d'ailleurs la difficulté qu'elle traverse aujourd'hui la RDC, qui, selon lui, est agressée par certains pays de l'Union européenne. Et profitant donc de la proximité d'ailleurs du Maroc à l'Occident, est-ce que la RDC peut, disons, monter des stratégies pour arriver finalement à créer une stabilité autour de la région?
Ben écoutez, j'ai souvent entendu le discours selon lequel la RDC est victime de ses richesses naturelles. Et que ces richesses naturelles font en sorte que la RDC soit convoitée par des pays occidentaux et par des pays voisins. C'est un discours que j'ai toujours écouté. Et ce discours peut à la fois refléter une réalité, mais peut également être un tout petit peu vide de sens. Qu'est-ce que je vais dire par là? La réalité est que les pays occidentaux, les pays voisins, viennent exploiter les richesses traditionnelles de la RDC. Ça, c'est une réalité. Par personne interposée ou de manière tout à fait directe, les pays voisins que je n'ai pas du tout envie de nommer viennent exploiter les richesses naturelles du Congo. La deuxième réalité est que de par sa densité, de par sa richesse, de par sa population, la RDC est située au cœur de l'Afrique et constitue un élément stratégique qui pourrait attirer les puissances occidentales pour avoir un positionnement stratégique et observé par ici, par là, et par le reste de l'Afrique. Et pourquoi pas exploiter, je n'ai pas envie d'utiliser le mot piller, exploiter les richesses économiques de la RDC. Donc, ces éléments-là, il faut les prendre au sérieux, il faut les mettre côte à côte, il faut les prendre en compte. Maintenant, lorsqu'on les met côte à côte, lorsqu'on les prend en compte, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution revient aux Congolais, qui doivent d'abord s'unir et ensuite penser qu'ils ont une responsabilité énorme. C'est le plus grand pays francophone du monde. Ils ont une responsabilité énorme et qui doivent laisser des objets personnels qui peuvent les attirer vers tel ou tel pays pour penser d'abord à leur propre pays et dire qu'ils peuvent faire des querelles intestines pour penser au devenir du Congo. Et je peux vous assurer que lorsque le Congo se sent mal, c'est le reste de l'Afrique en clair, sinon tout simplement l'Afrique francophone qui en prend un coup. Donc, on ne peut pas, un autre pays ne peut pas venir régler le problème congolais. Même quand il a des sympathies pour le Congo, il ne peut pas venir régler ce problème. Il faut que les Congolais soient capables eux-mêmes de mettre de côté leurs intérêts personnels pour pouvoir agir au sein de la au profit de la nation. Et s'ils le font, ils vont écarter les pays voisins qui ont des regards plongés sur le Congo. Ils vont écarter les puissances étrangères qui ne rêvent que de diviser, de balkaniser, pourquoi pas utiliser le mot de balkaniser le Congo pour être plus à l'aise. Nous autres, Africains, nous sommes contents d'avoir un Congo uni, un Congo fort, un Congo
prospère.
C'est ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup, Xavier.
Et voilà. Nous pensons que si...
Voilà, Xavier, je crois je crois que il y a beaucoup à dire hein, dans cette émission sur la réintégration de Maroc à l'Union africaine. Ce n'est qu'une partie remise parce que les temps nous est parti fait défaut. On va devoir se quitter. Merci en tout cas de votre disponibilité et surtout d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission pour échanger de manière citoyenne avec les uns et les autres. Xavier Messé, nous rappelons que vous êtes le DG du journal Mutation à Yaoundé au Cameroun. Il faut encore merci et à très bientôt. Voilà, merci également à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Sylvie Matondou était à la mise en onde. Julie César Bongonda au standard et à la réalisation de cette émission. Coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabong Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À très bientôt.